Vous écoutez France Culture.
Un été avec Philippe Solers, proposé par Isabelle Huel et Dominique Rousset. Aujourd'hui, éloge du 18e. Écoutez Philippe Solers, lisez-le ou relisez-le. Parcourez du regard avec discrétion, bien sûr, sa bibliothèque et sa discothèque. Renseignez-vous sur ses voyages, sur les salles qu'il préfère dans les musées. Observez enfin ses manières et jusqu'à sa diction. Partout, vous retrouverez ce qu'il nomme la fine pointe du 18e siècle. Celui qui rassemble avec bonheur tous les arts, celui qui a inventé Mozart, Fragonard, Casanova et tant d'autres.
Musique, peinture, sculpture, poésie, littérature, pas de séparation entre l'étage de la sensation, pas de séparation contre la séparation. Je vais vous dire simplement ce que ça évoque 18e siècle à propos d'un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Mystérieux Mozart » parce que là, on est au sommet de cette affaire de 18e. Et voilà ce que ça peut signifier. Il est étrange de se dire qu'après Mozart, tout s'est brusquement ralenti dans le bruit, la fureur, la lourdeur ou le tintamarre. Il y a eu une accélération de l'histoire, soit, mais sur fond de stupeur, de torpeur. De nos jours, la vitesse est partout, sauf dans les esprits. Du temps de Mozart, c'est le contraire. On voyage en diligence, les préjugés barrent l'horizon, c'est encore l'immense province, la noblesse à quelques exceptions près n'entend rien à ce qui va venir, mais le bouillonnement sensuel et neuronal est là. L'intelligence fuse à travers les doigts et les souffles. L'humanoïde actuel est un montage électronique à tête molle. La pointe du 18e siècle, au contraire, est un oiseau spirituel à animalité de soie et d'acier.
Le 18e, vous en parlez effectivement très souvent, Philippe Solers, c'est votre siècle, mais à vrai dire, quand on vous lit et qu'on vous suit, on est un peu pris de vertige parce que votre culture est bien au-delà du 18e. Vous y revenez toujours, mais vous parlez de tellement d'autres gens et de tellement d'autres époques.
Je m'en sers en avant, hein, pas du tout pour revenir à un
souhait. En avant, pas en arrière. C'est mieux que de dire
oui, parce que tout simplement, oui. Je crois que nous sommes en retard par rapport au 18e siècle. Nous sommes en retard, humainement, nerveusement et dans tous les domaines. En retard.
Et vous en parlez effectivement très, très longuement et à plusieurs reprises. Dans la guerre du goût d'abord, avec une question qui vous a peut-être déjà été posée, mais pourquoi guerre ?
Il y a quelque chose qui s'appelle le goût et qui est un mot extrêmement français. Au 18e, enfin, vous avez des essais sur le goût. Tout le Montesquieu, Voltaire... Il n'arrête pas de dire que le goût, vraiment, est ce qui est essentiel. Ça sera repris par Isidore Ducasse dans Poésie, l'autre est un mot. Le goût est c'est la qualité principale. Enfin, c'est le nec plus ultra, dit-il, de l'intelligence. Autrement dit, le goût et l'intelligence sont très liés. Ou autrement, si vous voulez, c'est la formule de Voltaire. Pourquoi est-ce que celui-là, c'est la harpe, je crois. Pourquoi a-t-il toujours raison ? Parce qu'il a du goût. Est-ce que le goût est unanimement partagé ? Tout le monde a-t-il du goût ? Ben non. Ce qui prédomine, de toute façon, c'est plutôt le mauvais goût. Et c'est pour ça que c'est la guerre. Le mauvais goût, dit Stendhal admirablement, conduit au crime. On a vu. On a vu les totalitarismes, on a vu ce que c'est qu'un extraordinaire mauvais goût qui tourne au crime. S'il y avait du goût, il n'y aurait pas encore ce qu'on a vu, c'est-à-dire les massacres, la Shoah, les goulags et autres étage extraordinairement impressionnant par la quantité de cadavres. Donc, le mauvais goût. Le mauvais goût règne. Autrement dit, la question qui se pose, elle est tout à fait politique. Comment éviter que le mauvais goût, qui est la pente obligatoire, hein, on va au mauvais goût comme on va au crime. Comme on va au crime, peut-être pas en le commettant, mais en le laissant faire, en pensant à autre chose, en ayant très très mauvais goût, parce que pourquoi le mauvais goût ? Mais parce que les images prédominent, vous êtes intoxiqué d'informations, etc. Le goût fait immédiatement allusion au corps, c'est-à-dire aux cinq sens. L'œil est ce qui est désormais principalement capté. Les images et le son lui-même devient secondaire, alors que ça devrait être le contraire. Le goût, ça a été une très longue histoire en France. La conversation, avoir de l'esprit, avoir du goût, tout ça, c'était mêlé. Le son... Pourquoi ça intéresse la radio? Pourquoi est-ce que le son devient à ce point aplati ou, et vous savez ce qui va se passer? C'est que le numérique, par exemple, tout le monde est d'accord sur le constat, va aplatir le son. C'est-à-dire que la musique enregistrée en numérique perd la moitié de la qualité du son. Et que c'est pourquoi la voix humaine est en grand danger et dans une espèce de brouhaha constant, comme dit encore Ducasse, l'autre hameau, la mouche ne résonne pas bien aujourd'hui. Un homme bourdonne à ses oreilles. Il renverse une proposition de Pascal. La mouche ne résonne pas bien aujourd'hui. Un homme bourdonne à ses oreilles. Bon, voilà. Donc, c'est la guerre, bien entendu, puisque le gros animal, comme Simone Veil dit, de la société, a tendance à écrabouiller, à égaliser. Ça s'est vu très bien en musique au détour du 19e siècle. Et ça, Nicolas Arnoncourt en parle très bien. Après la Révolution, ça va jusqu'à Beethoven et un peu au-delà. Bon, mais le romantisme arrive, et quoi ? Il faut que tout le monde chante à l'unisson. Les nuances doivent être supprimées. Si vous passez tout à coup de Così fan tutte de Mozart, admirable opéra où vous avez des sextueurs de voix qui se contredisent elles-mêmes, enfin bon, c'est une merveille, vous passez à Fidelio de Beethoven et vous voyez que l'opéra est détruit. Ça va aller encore plus loin, puisqu'il va arriver Wagner et sa musique, que Nietzsche va trouver insupportable, etc. Et puis Wagner, c'est très facile à comprendre ce qui va se passer. Si vous supprimez les nuances, vous supprimez les singularités, vous supprimez le talent individuel qui peut s'exprimer en même temps que les autres, c'est-à-dire dans une véritable démocratie telle qu'elle doit être. Il n'y a qu'à prendre les madrigaux, si vous voulez, de Monteverdi ou autre, pour voir à quel point tout ça a été travaillé dans une grande liberté où chacun garde son autonomie. Hein, là, c'est les livres, ce sont des démocraties de détails. Si vous oubliez les détails, si vous oubliez les singularités, vous écrabouillez tout ça. Tout le monde doit chanter à l'unisson. C'est la musique militaire. Et à ce moment-là, vous avez une destruction de l'ouïe elle-même. La France étant particulièrement pénible à ce sujet, parce que c'est un pays anti-musical. Dès que vous allez en Autriche ou en Allemagne ou en Italie, vous savez très bien que la musique, la mélodie interne, la façon même de parler vont vers la musique. En France, la plupart du temps, c'est vraiment écrasé. Ce qui laisse la voie libre, d'ailleurs, à tout ce qui peut se fabriquer comme bruit, enfin comme bruit qui se prête en musical, le rock, etc. Vous pouvez élever plusieurs générations dans une surdité roqueuse et qui, en effet, écrabouille le son. Donc, à ce moment-là, il faut simplement se concentrer sur ce qu'est réellement le fait de sauver le son, sauver la voix, de sauver Glenn Gould, de sauver Martha Argerich, de sauver tout ce que vous voulez, c'est-à-dire vraiment des interprètes pour qui c'est la vie même que d'être dans le son juste au moment, au centième de seconde près. Voilà. C'est ça la guerre. Alors, est-ce que, dans un rapport de force absolument écrasant, vous avez, c'est comme si vous aviez 10 ou 12 personnes en gants blancs dans la plaine en s'opposant à 3000 tanks. Est-ce que c'est la guerre? Eh bien oui, malgré ça, n'est-ce pas, il suffit de très peu de personnes pour tenir le coup, avec, parce que c'est une force spirituelle particulière qui ne se mesure pas en termes de force armée. Vous connaissez le mot de Staline, fameux, le pape combien de divisions? Ben, Staline est mort, le pape est toujours là. Dix ans au 18e et ses environs. 10 ans peuplés d'ombre, plus vivantes que les vivants. 10 ans de bonheur et de connaissance. 10 ans d'enfance, surtout, retrouvée dans sa lumière et sa liberté. Je me suis appris beaucoup de choses pendant ce temps-là. Les aventures incroyables de l'auteur de Point de lendemain, vivant de nom. Ses activités secrètes. Son amour pour sa noble maîtresse vénitienne. Son coup d'œil inspiré avant tout le monde sur l'Égypte. Son étrange travail souterrain auprès de Napoléon pour édifier le musée du Louvre. Son courage et son goût qui le font mourir quai Voltaire en face du Gilles de Watteau, sauvé par lui du trottoir. Et puis Casanova, écrivain français, et ses mille et une nuits fabuleuses, avec en filigrane sa passion de l'inceste heureux, qui n'a pas été assez remarqué, et pour cause. Et puis Mozart, et là il s'agit de l'affaire la plus profonde de toutes, puisque la musique surgit et juge. Des encouragements pendant ce temps-là? Aucun. Au contraire. Bref, 10 ans pour moi révolutionnaires, dans un pays de plus en plus plongé, dans sa décadence ignorante, son conformisme, sa régression désirée. Un pari, donc, pour lequel je persiste et signe, pour la beauté de l'incongruité. Ceci, le Mozart, mon livre sur Mozart, Mystérieux Mozart, est paru en plein 11 septembre, tandis qu'à New York, c'était le jour où la planète adoptait le nouveau calendrier terroriste. Les tours s'effondrent, les corps se jettent dans le vide, et quel monstre écouterait du Mozart pendant ce temps-là? Moi.
La guerre du goût, donc 1996, si je ne me trompe, le discours parfait 2009, entre plusieurs ouvrages, Les Voyageurs du Temps, je l'ai dit, où vous évoquez encore le 18e siècle, avec une autre une autre constante, il me semble. Vous comparez beaucoup ce 18e siècle français. Enfin, vous le qualifiez de français, d'abord, le 18e siècle.
Alors, c'est un pléonasme de dire 18e français.
Et vous 18e, dites c'est un pléonasme. Et un peu plus loin, enfin un peu plus tard, c'est dans Discours français.
L'Europe parle français au 18e siècle.
Voilà. Et un peu plus tard, dans Discours français, donc vous avez raison de dire que le 18e est toujours devant, et non pas que vous y revenez.
C'est les Français qui sont très en retard par rapport à eux-mêmes, parce qu'ils ont coupé leur lien avec ce qu'ils ont de meilleur.
Vous nous dites que les Français vont mal parce qu'ils n'aiment pas les Lumières.
Voilà.
Et vous parlez de l'Europe de l'esprit qui est française. Là, on revient encore à ce que vous tenez souvent comme discours l'Europe et les...
C'est une fausse Europe.
Et les nationalités européennes. Donc, que peut-on dire à ce sujet? Pourquoi revenez-vous toujours, effectivement, sur ce 18e tellement français? Et peut-être pour pousser un peu la question, on vous l'a parfois fait remarquer, vous ne citez pratiquement que des auteurs français.
D'abord, il y a la question de l'érotisme. Ça aussi, c'est français. Voyons, prenons le corps humain lors de son organisation la plus libre et la plus générale. Bon. En peinture, c'est très clair, je laisse les siècles antérieurs, mais vous avez quand même quelque chose de visible, c'est Tiepolo en Italie, qui ferme en somme la grande époque vénitienne. Après ça, Venise punit. Puni par Napoléon, notamment, et puis par l'Autriche, Tiepolo. En France, vous avez quand même Watteau, et puis vous avez Fragonard. Or, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes dans la peinture. Il faut attendre, après un tunnel, le milieu du 19e siècle, pour que tout à coup un certain nombre de singularités françaises, admirables, pensent prendre cette dimension des choses, et là vous avez Manet. L'Olympia, à Paris, tout le monde se rassemblait pour rire devant l'Olympia. Clémenceau raconte que lorsqu'il était jeune, ses amis et lui montaient la garde devant l'Olympia de Manet pour qu'elle ne soit pas détériorée. Un jour, un type vient, un peu bedonnant comme ça, il crache sur le tableau. À ce moment-là, Clémenceau le gifle. Je dis Clémenceau parce que nous allons avoir après, et en même temps, tout l'impressionnisme, c'est-à-dire Monet. Vous relisez Clémenceau sur Monet, qui est absolument étonnant. Il l'a soutenu jusqu'à la fin. Sans Clémenceau, vous n'avez pas les nymphéas à l'orangerie. Vous avez ensuite tous les impressionnistes, contre tout le monde. Interdiction, censure, etc. C'est-à-dire aussi bien Degas que Renoir et que l'immense Cézanne, bien entendu. Et Rodin. Et Rodin me dit toujours qu'il s'inspire du XVIIIe siècle. Non pas pour revenir au XVIIIe siècle, mais parce que l'énergie dépensée au XVIIIe siècle dans un certain nombre de corps, notamment à cause d'une possibilité érotique profonde, mène plus loin et qu'on peut innover en reprenant cette énergie. Voilà. Regardez ce qui se passe entre 1740 et 1789, c'est ça qui est intéressant. Le libertinage est partout. Paris est la citerre de l'Europe, ou plus exactement le bordel de l'univers. Ça pourrait se dire de Venise un peu avant. Hein. Voilà. Il y a une philosophie française, contrairement à ce qu'on nous dit, spécialisée, on ne le sait pas assez, dans l'éducation et la liberté des femmes. C'est là que ça se passe. Et c'est là que le 18e a sa mauvaise réputation, d'où l'oubli et la censure qui le guettent, d'où aussi son éblouissante fraîcheur. Parce que il faut regarder du côté des femmes pour savoir comment l'histoire se fait par progrès, souvent insensible, par rupture et souvent par régression. C'est très important. Comme le dit une courtisane d'alors, je vous l'ai déjà dit et vous ne m'entendrez pas dire autre chose. Du plaisir, mes enfants, du plaisir, je ne vois que cela dans le monde. Ou alors, l'ère des grivoises, mot charmant, complètement disparu. Une grivoise, mademoiselle, rendez-nous des grivoises. Est une fille qui ne se soucie de rien, qui satisfait ses plaisirs et ses passions quand elle en trouve l'occasion, qui ne prend aucun chagrin et qui ne songe qu'à se réjouir. Vous comprenez, c'est très clair. Où est-ce qu'en est l'érotisme et la possibilité des corps de se connaître eux-mêmes dans la question dite sexuelle? Eh bien, ça va très mal. Vous avez d'un côté la pornographie qui a envahi le terrain, le mauvais goût conduit à l'embarras. Et comme tout cela ne va pas sans dire C'est ça, le XVIIIe siècle. C'est la possibilité de dire ce que l'on sent par tous les côtés à la fois. Et vous, connaissez les vedettes, c'est Diderot, c'est Laclos, c'est Casanova en français, c'est Sade, mais aussi Mirabeau, Denon, Rétif de la Bretonne, Crébillon, Dora, Nercia, voilà. Et après ça, vous... Et les auteurs sont souvent anonymes. Vous avez l'impression qu'il y a une effervescence absolument considérable, qui était déjà là au XVIIe, mais qui se produit d'une façon éblouissante au XVIIIe siècle. Quelque chose a voulu tuer le XVIIIe siècle. Il s'agit de savoir pourquoi, de reprendre le XVIIIe et d'aller de l'avant.
Alors, deux mots que vous aimez beaucoup. L'un que vous avez déjà prononcé, libertin. C'est un oiseau qui s'écarte de sa route et ça, et qui ne revient pas, le libertin.
Oui, 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 oui. La plus belle définition du mot libertin se trouve dans Littré, 1872. En termes de fauconnerie, il se dit de l'oiseau de proie qui s'écarte et ne revient pas. La notion d'écart est ici centrale. Elle suppose une règle et une contradiction à cette règle, aussi bien chez l'écolier par rapport à son maître, à la fille par rapport à sa mère, au fils par rapport à son père, à la femme par rapport à son mari, au moine par rapport à son couvent, etc. Cela se dit d'une personne qui hait la gêne et la contrainte, qui suit son inclination et vit à sa mode. Au fond, il y a des dévots à travers les siècles, ils changent de costume et ils sont légions, et puis des individus de l'écart, des aventuriers du dérèglement. Les dévots, Molière a tout dit, citation, « ils veulent que chacun soit aveugle comme eux, c'est être libertin que d'avoir de bons yeux. » Mais Sévigné n'est pas mal non plus. « Je suis tellement libertine quand j'écris que le premier tour que je prends règne tout au long de ma lettre. On est déjà libertin. Quand on va vite, qu'on préfère le galop au trot, qu'on refuse de s'ennuyer, qu'on prend des chemins de traverse, qu'on improvise, qu'on saisit l'occasion, qu'on aime le moment, l'instant. »
Et la luxure, c'est un mot démodé aujourd'hui, c'est encore un mot du XVIIIe.
C'est un mot, oui, mais c'est un péché capital. Enfin, le plus beau, parce que la gourmandise, la paresse, ça, oui. C'est un mot qui n'a plus grand sens du tout, il n'est plus employé, bien sûr, quoique dans le mot vous avez le luxe. Et c'est pour ça que... tout ce qui est luxueux, fastueux, etc., doit être égalitairement proscrit. La luxure, c'est un très très magnifique continent où on peut s'aventurer à ses frais ou avec péril, avec danger. Tout le monde n'est pas fait pour la luxure. Il faut un certain tour de bas. Luxure, c'est luxuriant aussi. Vous connaissez, luxurieux, luxuriant, ça veut dire prolifération, ça veut dire abondance, ça veut dire quelque chose qui doit être conçu comme un péché. Que l'on soit dévot religieux ou dévot laïque.
Alors Casanova, Sade, bien sûr. Alors, un mot juste sur Sade, vous vous êtes vraiment réjoui que l'on, je reprends votre formule, mais vous l'utilisez ailleurs, mais elle est drôle, que l'on pléiadise Sade, vous avez d'ailleurs œuvré pour ça, et qui occupe, ça vous réjouit, une très jolie place à côté de la Bible, hein, je vous cite bien sûr, et donc vous vous plaisez à ce moment-là à citer, je crois que c'est encore dans la guerre du goût, à citer des phrases à faire frémir chez Sade, enfin, qui vont très très loin dans la débauche, et vous dites comment, mais on embête un film de Scorsese qui somme toute était assez... Oui. Bon. Assez fade, et on laisse publier cela.
Voilà le problème.
Là encore, vous rapprochez le 18e de notre époque d'une manière
forte. Voilà le problème de notre époque et la façon dont l'hypocrisie et la censure fonctionnent de façon tout à fait nouvelle. Vous entrez dans une librairie, vous demandez des volumes de Sade en Pléiade et on vous les donne sans discuter. Je suis un peu à l'origine de ça avec Antoine Gallimard qui a réussi à ce tour de force qui est démonstratif. Autrement dit, vous prenez ça, allez-vous le lire ? Peut-être un peu, peut-être pas. Vous trouvez, ceux qui critiquent ça, en général, soit ils trouvent ça horrible, bien entendu, soit ils trouvent ça monotone, ennuyeux, toujours la même chose. Bon, ils ne voient pas le génie d'imagination que ça a produit. Censure de l'époque, c'est admirable. Vous avez la Pléiade, je la pose sur là, devant vous. Sade, français, autre, enfin, il y a mille façons de comprendre ça. Il y a des gens qui croient, par exemple, que Sade était révolutionnaire parce que... Enfin bon, c'est tout à fait ridicule. Sade est tout à fait au-delà de ces prises idéologiques un peu misérables. Il est très au-delà. Mais alors, est-ce que je peux aller au journal de 20h à la télévision et lire le livre qui se trouve là sur la table même du studio, lire, disons, pendant 2 minutes 30, une horreur particulièrement impressionnante de ça.
Les 120 journées, notamment.
Oui, où vous voulez, oui, ou la philosophie dans le boudoir, ce que vous voulez, ou Juliette ou les prospérités de vice. Bien sûr que non.
So bleibe doch, was wollt ihr noch? So bleibe doch, was wollt ihr, was wollt ihr, was wollt ihr noch?
Il faut aller droit au manuscrit de Sade et au cahier de prison pour découvrir au passage qu'une main policière anonyme a tracé ce qui suit sur une des couvertures. Ces notes sont de la main de l'infâme marquis de Sade. L'émotion qui vous saisit là n'a rien de religieux, on s'en doute. Vous vérifiez une fois de plus que Sade était un lecteur et un annotateur avide, Voltaire, d'Alembert, un amateur d'histoire, curieux de toutes les coutumes et de tous les pays, la Russie, l'Égypte. Vous voyez naître sa grande idée des deux sœurs. L'une, très libertine, vit dans le bonheur, dans l'abondance et la prospérité. L'autre, extrêmement sage, tombe dans mille panneaux qui finissent par entraîner sa perte. Implacable démonstration du renversement qui ne peut que nous indigner, mais aussi nous faire rire, d'un drôle de rire. La bienfaisance est punie, la pitié sanctionnée, la prudence châtiée, l'amour du vrai ridiculisé, la vertu persécutée et le vice récompensé. Sade va jusqu'à dire que le temps justifie tous les crimes, que la nature opère dans ce sens, et il ose même déclarer avec une incroyable désinvolture « J'imite la main de la Providence ». Des remords, mais non. Le remords, dit-il en vous déchirant, ne raccommoderait pas le mal que vous avez fait aux autres, et vous en ferez beaucoup à vous-même. On se souvient ici de la devise de Juliette dans les prospérités du vice, le passé m'encourage, le présent m'électrise, je crains peu l'avenir. C'est entendu, cette philosophie radicale déplaira. Mais, dit Sade, est-ce bien la peine de chercher à plaire à ceux qui ne s'occupent jamais qu'à déplaire aux autres ? La belle écriture noire continue, elle ébauche des récits courts ou longs, gais ou sombres, les inconvénients de la pitié, la force du sang. Elle fait vivre le taquinisme, hein, d'une façon oubliée chez ce personnage, d'un libertinage effréné, d'un taquinisme et d'une méchanceté sans exemple. Et tout à coup, une phrase étrange. « Les femmes sont comme le crocodile, elles flattent quand elles veulent mordre. » Sade a son cahier de phrases refaites, une autre de réparties plaisantes et paroles remarquables. Bref, il n'arrête pas. Entraînement constant, fouille dans la langue elle-même, à travers des listes d'antonymes et de synonymes, ouverture répétée vers la prolifération. Je trouve particulièrement révélatrice cette liste effervescente. Faveur, attrait, trait, beauté, désir, plaisir, volupté, touchants à pas, divin, doux amour, sentiment, soupir, naître, grâce, Dieu, Dieu, déesse, tendresse, odeur, feu, flamme, âme, cœur, penchant, rose, fleur, tendrement, ardemment, joie, délice, candeur, naïveté, œil, yeux, bouche, trône, empire, fer, chaîne, après quoi deux mots barrés, captiver, soupirer, et ça reprend comme une fugue, illusion, prestige, rigueur, choix, foi, idéal, souvenir, promesse, fête, bonheur, malheur, inspirer, respirer, désirer, souhaiter, jouissance. Sade est au clavecin, il improvise, il fait monter les mots, il compose un vrai musicien baroque, c'est un génie baroque, une suite française à la Bach. Quel charme, quelle fraîcheur! Voici comment le marquis de Sade apparaît en 1772, à 32 ans, au témoin de l'affaire de Marseille, qui lui vaudra d'être une première fois condamné à mort et exécuté en effigie, puisqu'il est en fuite. Taille moyenne, cheveux blonds, jolie figure, visage rempli, frac gris doublé de bleu, veste et culotte de soie couleur souci, plumet au chapeau, épée au côté, une canne à pommeau d'or à la main. Il est sur le terrain, en somme. Sa passion est le corps humain, celui des autres est le sien. Ses tableaux seront les livres les plus intraitables et les plus inspirés jamais écrits sur la jouissance que peut procurer cette substance. Mais laissons parler le préfet Dubois, qui a eu la chance, avant de les faire brûler, de lire les 10 volumes manuscrits des journées de Florbelle ou la nature dévoilée, écrits 35 ans plus tard, en 1807, par le vieux prisonnier de Charenton, devenu obèse. On accumulerait les épithètes les plus épouvantables qu'on ne caractériserait pas cette infernale production. Ce monstre d'écriture est pourtant issu d'une des plus anciennes familles de France, qui compte en son sein Laure, l'inspiratrice de Pétrarque. Et voici ses armes. De gueule à l'étoile de huiret d'or chargée d'une aigle éployée de sable, membrée, becquée, onglée, diadémée de gueule. Tout un programme, dont le moins qu'on puisse dire donc, est qu'il a été vertigineusement détourné. Enfermé à Vincennes puis à la Bastille, Sade écrit à sa femme les lettres les plus étourdissantes de virtuosité qu'on ait jamais lues, pleines d'imprécations, de revendications, de plaintes, mais aussi d'humour, de tendresse. Comment l'appelle-t-il ? Ma Lolotte, jouissance de Mahomet, tourterelle chérie, port frais de mes pensées, aiguillon de mes nerfs. Et elle, qui pourtant a été témoin des orgies du château de Lacoste, dit « Rien ne me fera changer que le bien de mon mari. C'est mon unique but. L'univers ne m'est rien sans cela. » Elle a défié sa mère pour prendre le parti de son mari. Drôle de mari. C'est à elle que Sade confie le plus naturellement du monde sa philosophie de base. Je cite « Je respecte les goûts. Les fantaisies, quelque baroque qu'elles soient, je les trouve toutes respectables, et parce qu'on n'en est pas le maître, et parce que la plus singulière et la plus bizarre de toutes, bien analysée, remonte toujours à un principe de délicatesse. Je me charge de le prouver quand on voudra. Vous savez que personne n'analyse les choses comme moi. Et encore, ce n'est pas ma façon de penser qui a fait mon malheur, c'est celle des autres. Faut dire, c'est qu'en vrai, le 18e, c'est quelque chose de tout à fait particulier, parce que en un temps record, en 50 ans, vous avez là un génie tous les 3 mètres. C'est dans un bouchoir que ça se passe en musique, c'est Vivaldi, c'est Bach, c'est Handel, c'est Haydn et c'est Mozart. Bon, voilà, écoutez tout ça à la fois. En peinture, je l'ai dit, en littérature aussi. Enfin, la société est bloquée, elle semble chancelante, elle a encore. Mais le nombre d'individus singuliers et libres qui existent en même temps, c'est prodigieux. Alors qu'au 19e, je vous assure qu'il faut, voir les difficultés. Les difficultés des peintres. Tous les impressionnistes refusaient tout le temps. Quant aux poètes, aux écrivains, enfin bon. Baudelaire, l'autre amant, Rabot, bon, c'est marginal. Il faut très longtemps avant que ça puisse arriver. On en parle encore. Qui était Rimbaud? Alors, il y a une exposition Rimbaud-Magnat. J'écoute à la radio vaguement des acteurs qui lisent sur fond de brouillage, avec des voix d'outre-tombe, des poèmes de Rimbaud, sentimentaux. Mais c'était effarant. Rimbaud, c'est très précis. Illumination, je vous l'ouvre immédiatement, vous allez voir, c'est un texte que vous pouvez lire 10 fois, 15 fois, 50 fois, et vous aurez toujours la surprise de le redécouvrir comme neuf, s'adressant à vous de l'intérieur du son et du phrasé et du rythme.
18e toujours, vous parlez, vous évoquez, alors bien sûr, vous l'avez dit, les anonymes.
Il y a des tas d'auteurs anonymes.
Fort bien écrits, une langue magnifique.
Et en général, c'est très beau, enfin, c'est tout à fait étrange. Ça va très vite. Ce sont des histoires qui se
Pourquoi
déroulent.
Pourquoi des anonymes d'ailleurs?
Parce que il y avait la censure, etc. Mais enfin, non, souvent c'était distribué de façon anonyme. On a l'impression, vous allez me dire que c'était uniquement restreint.
Mais non, parce que vous dites qu'on pouvait tout dire au 18e. J'essaie de comprendre pourquoi, au fond, il y avait autant d'anonymes.
Oui, on pouvait forcer un peu la dose sous forme d'anonymat. N'oubliez pas que les écrits principaux, enfin, Casanova, il faut un temps fou avant que ce soit publié. Le manuscrit vient d'arriver en France alors que c'est du français. Sade, il a fallu un temps fou. Laclos est interdit jusqu'en 1922, je crois, sans parler de Baudelaire, où il faut attendre l'après-Seconde Guerre mondiale pour que les Fleurs du Mal reprennent leur condamnation. Il faut faire une histoire de la censure, vous comprenez? C'est ça, c'est faire avec la censure. Et alors aujourd'hui, la censure a changé de forme. C'est pas la peine de se battre pour écrire des choses très dures, sexuelles, etc., pornographiques. Etc. Mais allez-y, ça n'a aucune importance. C'est pas là où ça se passe, la censure. Elle se passe dans les cerveaux de façon beaucoup plus profonde, c'est-à-dire par une incapacité désormais de lire plus de 10 phrases de suite et de perdre la mémoire en lisant. Ce que tous les psychanalystes savent, les patients viennent se plaindre de ne pas pouvoir fixer leur attention la plupart du temps, n'est-ce pas? C'est là où ça se passe. Et c'est là où, comme je peux, j'essaie d'intervenir, souvent dans le malentendu, etc., mais pour bien cibler la chose. Il ne s'agit pas d'être révolutionnaire par rapport à des réactionnaires fieffés qui interdiraient le sexe, les livres érotiques. Au contraire, ça déferle. C'est le système destroy. Hein. Détruisez-vous et dégagez.
Et c'est vulgaire aujourd'hui et ça ne l'était pas au XVIIIe siècle.
Non, parce que la question est celle, encore une fois, du coup, c'est vulgaire. Le sexe n'est pas démocratique. Je n'y peux rien. Hein. Tout le monde ne sait pas jouer du piano. C'est pas une question de classe sociale. Hein. C'est une question de disposition personnelle, singulière. Jean Genet n'a rien d'un noble d'autrefois, par exemple. C'est comme l'athéisme. L'athéisme n'est pas démocratique, ne peut pas l'être. Même, il vaut mieux qu'il ne le soit pas du tout. Parce qu'il y a eu des régimes qui se sont déclarés athées, on a vu les désastres. Donc, quand Robespierre, par exemple, pour ne citer que lui, au moment de la terreur, poursuit systématiquement son programme, de façon très, très, très motivée, et veut réinstaurer une religion, c'est-à-dire le culte de l'être suprême. Il y a eu des fêtes où David a été convoqué pour faire un peu le décor, etc. Des fêtes, j'ai écrit dans un Sade contre l'être suprême ce que Sade supposait penser de cette farce. Autrement dit, était suspect, c'est-à-dire à couper la tête. Les athées, il fallait une religion, parce que sans religion, ben, ça ne va pas. Il faut une religion comme ça. On va en faire une qui tient le coup sous les yeux de l'être suprême. D'accord, pourquoi pas. Bon. Les libertins, source de désordre et d'athéisme souvent. Les aristocrates, bien entendu. Ça, vous êtes arrêté au coin de la rue, le marquis de Condorcet en sait quelque chose. Bon. Et puis évidemment, ce que ça s'appelle les fanatiques. Fanatiques, ça veut dire les prêtres réfractaires de l'époque. Avouez que ça fait une charrette assez impressionnante, où les gens n'ont pas grand-chose à se dire les uns aux autres, mais ils sont à éliminer. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe ? L'Europe, à l'époque, a pour capitale indubitable Paris. C'est pas Bruxelles, c'est pas Berlin, c'est pas Rome, c'est Paris. Donc tout ça, ce sont des Européens. Vous voyez Casanova, qui est vénitien, qui écrit en français, qui voyage partout, qui rencontre aussi bien Frédéric de Prusse que Catherine de Russie. L'Europe est exportée partout par la langue française. Les élites, la cour, enfin évidemment, pas tout le monde, mais quand même, c'est là qu'est le pouvoir. Le pouvoir parle français. C'est de ça que les Français souffrent, de leur propre décadence aggravée, déliquescente. Ils n'aiment pas leur XVIIIe siècle, qui est tout simplement le XVIIIe siècle lui-même. Ils n'aiment pas Diderot, ils n'aiment pas Voltaire. Ils se sentent indignes de cet héritage, qu'ils ne méritent pas d'ailleurs. Tant pis. Le temps passe et Evato ou Fragonard, repris ensuite par d'autres. Voilà, ça circule comme ça, c'est ce que j'appelle les voyageurs du temps, si vous voulez, parce qu'en effet, le temps n'obéit plus à une chronologie fixe.
Sur Casanova, que peut-on dire encore ?
Casanova, c'est un des plus libres qui ait jamais existé. Ce qui est très, très étonnant, c'est la façon dont il décide d'écrire ses mémoires, parce qu'il pressent, c'est 1789. Il sent que, voilà, il y a une mutation en cours. Et donc, il vient, ne l'oubliez pas, d'être présent à Prague lorsque Mozart vient diriger lui-même son Don Giovanni et son Don Juan. Il est là. Da Ponte, le librettiste, est là. Mozart traîne un peu, il faut faire l'ouverture, on l'enferme dans son ballon. Bon, il l'a fait, très vite. Casanova est là, et on sait que l'air du catalogue, il y a mis les mains, on a trouvé les... Bon. Et donc, cette histoire-là, il comprend que tout ça risque de basculer dans l'oubli. Et donc, il entreprend d'écrire ses mémoires là-bas, en Bohême, à Douchkov, où je suis allé voir son petit château baroque, où il a été très malheureux d'ailleurs, parce qu'il était en pays allemand. Il était persécuté par... Voilà. Donc, ça veut dire 12 ou 13 heures par jour à écrire ses mémoires. Alors, avec une mémoire, en effet, ce qu'il avait évidemment sous ses notes, ce qu'il appelle ses capitulaires, et c'est une réalisation absolument grandiose, mais il a fallu... Oh là là, mon Dieu, le manuscrit, et la pudibonderie des éditeurs, et le fait qu'il a fallu le réécrire par un professeur de français, avant que le texte original... Voilà.
Et des traductions aussi très, très édulcorées, vous en citez des exemples très drôles, oui. La manière dont Jean Laforgue avait adouci beaucoup de textes.
Oui. Il faut que les choses crues soient éliminées. J'en cite un certain nombre de corrections. Universitaire.
Oui, notamment.
Vous mettez Casanova entre les mains de l'universitaire en lui demandant d'agrémenter.
Donc, je peux citer quelques exemples. Casanova, ne cache pas ce qu'il appelle ses gros goûts. Oui. Alors, gibier, rouget, foie d'anguille, crabe, huître, fromage décomposé, le tout arrosé de champagne, de Bourgogne, de Grave. Laforgue, donc son traducteur, préférera le plus souvent parler, je cite, de souper délicieux. Oui. Ou bien Casanova se décrit-il en mouvement, pieds nus, la nuit, pour ne pas faire de bruit. Laforgue immédiatement prend froid et met à son héros des pantoufles légères.
Oui, c'est ça.
Si Casanova écrit le bas peuple de Paris, on lui fera dire le bon peuple. Mais ce sont évidemment des précisions de désirs sexuels qui sont les plus épineuses.
Laforgue de gauche.
Et là, vous en citez de savoureuses.
Laforgue de gauche. Oui, c'est pas le bas peuple. De même que Louis XV avait une tête magnifique, etc. Ça, ça va pas non plus. Bien, maintenant, la Pléiade ancienne de Casanova est à refaire intégralement. Le manuscrit est en cours d'observation. Et il y aura 3 ou 4 volumes de Casanova. Mais vous voyez le temps que ça prend. Casanova est mort dans son petit château, il pleuvait beaucoup, en 1798. Sauf erreur, nous sommes en...
Et on n'a pas encore publié.
Alors, c'est pour ça qu'il faut méditer sur le temps. Quand je dis 18e, c'est pas on va se promener comme dans un musée au 18e. Non, ce que je veux étudier, ça peut porter sur d'autres époques aussi, sur d'autres continents. Ce que je veux essayer de faire comprendre, de comprendre moi-même d'abord, si j'arrive à le comprendre, je pourrais peut-être le faire comprendre, c'est qu'il y a une autre histoire que celle qui nous est racontée. Voilà, l'histoire de ses singularités. C'est l'inceste. Hein. La mère s'appelle Lucrezia et la fille de Casanova s'appelle Léonide. Donc ils sont dans une grotte, je ne sais pas où, très bien en Italie. Lucrezia, discrète, laisse sa fille et son père ensemble tout en leur recommandant de ne pas commettre le crime. Ces paroles, suivies de son départ, firent un effet tout contraire au précepte qu'elle nous donnait. Déterminé à ne pas consommer le prétendu crime, nous le touchâmes de si près qu'un mouvement presque involontaire nous força à le consommer si complètement que nous n'aurions pas pu faire davantage si nous avions agi en conséquence d'un dessein prémédité dans toute la liberté de la raison. Nous restâmes immobiles en nous regardant sans changer de posture, tous les deux sérieux et muets, en proie à la réflexion, étonnés, comme nous nous le dîmes après, de nous sentir ni coupables ni victimes d'un remords. Nous nous arrangeâmes et ma fille, assise près de moi, m'appela son mari, en même temps que je l'ai appelée ma femme. Nous confirmâmes par de doux baisers ce que nous venions de faire, et un ange même qui serait alors venu nous dire que nous avions monstrueusement outragé la nature, nous aurait fait rire. Absorbée dans cette très décente tendresse, Donna Lucrezia fut édifiée de nous voir si tranquilles. Je ne sais pas, moi, je trouve ça bien.
J'ai envie de vous lire quelque chose que vous avez peut-être oublié. C'est paru dans le Nouvel Observateur en 1998. Alors je lis à mon tour. Mais quelle est donc cette fascination que Casanova exerce sur l'esprit des hommes et depuis si longtemps ? Les mémoires de Casanova n'ont qu'une face, la sienne. Il s'observe dans la glace, se trouve bel et bon de dispenser ainsi sa semence dans des lieux si charmants et déclare enchanté de lui et d'alentour « J'ai fait leur bonheur ». Et allez donc.
C'est Giroud, ça.
Qu'on me comprenne bien, Casanova est un personnage étincelant, un aventurier prestigieux, une figure divertissante, un excellent écrivain. Simplement, il ne connaît ni le bien ni le mal. Alors, si vous croisez sa postérité, en habit rose ou en blouson de cuir, gare, fillette, solaire, c'est un farceur. Oui. À propos de votre livre sur Casanova.
C'est
Giroud, François
tout
Giroud.
Tout à fait intéressant, oui. C'est la mère supérieure Giroud qui a été très, très choquée. Il faut signaler qu'elle avait envie d'écrire un livre sur Casanova et que je l'ai un peu précédé. Et qu'elle était, il n'est pas question du fait que Casanova avait la manie d'enculer les religieuses.
Si, en
si,
effet.
N'est-ce pas ?
Je n'ai pas tout lu.
C'est très, très, très important. Non, mais si, parce que la mère supérieure...
Et d'engrosser les adolescentes et de gruger les vieilles femmes.
C'est un texte effarant auquel j'ai répondu d'ailleurs dans le même magazine. Étrange, les fantasmes d'une mère supérieure. Bon...
Gare fillette,
oui. Oui. Les 12-13 ans, qu'on l'arrête.
Vous vous souvenez de cette polémique ?
Qu'on l'arrête. Ben, je m'en souviens parce qu'elle
n'était pas la première.
J'étais mort de rire. Hein. Voilà, je ne sais plus comment j'ai répondu, avec ironie, bien sûr, je suppose, comme il se devait. Mais ça parle.
Alors, je reviens à cette guerre du goût. Je trouve que c'est un livre où on trouve énormément d'indices aussi de votre personnalité, bien sûr, de vos goûts à vous. Et ce qui est formidable, c'est qu'effectivement, on a le sentiment que vous êtes constamment avec le XVIIIe siècle, auprès de vous. Mais en même temps, vous évoquez un nombre de gens extraordinaires. Voilà. Et donc, je voulais citer, mais vraiment au hasard, parce qu'il y en a bien d'autres.
L'énergie de la langue.
Rodin, Genet, vous avez parlé de plein de gens comme ça.
L'énergie de la langue que j'écris est là. J'essaye de voltairiser ma prose autant que possible.
Ça, c'est mais il y a tant Céline de gens, Philippe Solers, il y a une telle érudition, excusez-moi, c'est difficile à suivre. Vous parlez aussi bien de Koenig que de Miles Davis, que de Genet, que de Rimbaud, que de Beckett, que du Titien, que de Fragonard. Tiens, on n'a pas encore parlé de Fragonard, retour au 18e. C'est un de vos peintres préférés.
Oh, écoutez, les baigneuses de Fragonard, les baigneuses de Fragonard entraîne qu'un jour, alors que tout ça est plus ou moins oublié, n'oubliez pas que, par exemple, Vivant Denon, sur lequel j'écris un livre, ramasse par terre, on est vers le début du 19e siècle, ramasse par terre le Gilles de Watteau, qui est un tableau absolument sublime. Il l'emporte chez lui, il le met devant son lit, il est mort devant. Bon. Et David, qui était avec lui, il dit « Mais non, ça c'est rien, ça c'est des croûtes, hein. Attention hein. !» Donc, Fragonard, oui, Fragonard.
L'étymologie de son nom, déjà.
Frago, oui. Eh bien, écoutez, à partir d'un certain moment, les peintres français se sont dit, mais oui, c'est la vérité, là. C'est Manet, c'est toi. Regardez, après ça, Picasso va se dire, mais bien sûr, c'est la vérité est dans Manet. Combien d'allusions à Manet chez Picasso, le déjeuner sur l'herbe, etc., etc. Donc, ce qui me paraît intéressant, c'est de voir comment les choses se transmettent de singularité à singularité. C'est comme s'il y avait des sortes d'engendrements physiques comme ça, qui ne relèvent pas d'une famille. Chacun reste singulier. Je peux vous dire quelque chose, par exemple. Je veux bien revivre ma vie, intra-utérine, dans une femme plaisante, à la jolie voix, qui rit souvent, et dont je suis le dernier enfant, un garçon après deux filles, la chance. Je veux bien tituber à nouveau, sous le grand cèdre du jardin, en fermant les yeux quand je passe au soleil. Je veux bien subir, à partir de là, la malédiction qui m'entoure, asthme, otite à répétition, mastoïdite, épreuve des poumons profonds et des tympans régulièrement percés, le souffle et l'ouïe, mes amis. Je veux bien repasser dans mes vêtements d'enfance, barboteuse jaune, idiote, barboteuse, ce mot. petit costume assez chic, école maternelle oubliée, période d'ennui prostrée, sauf les dimanches aimantés à l'église. Je veux bien faire semblant d'être dans un collège religieux absurde, dont mes deux sœurs viennent me tirer abruties à midi et le soir. Je veux bien retrouver mon merveilleux lit de malade chronique et défensif, la fièvre, le délire, les chevaux courant sur les murs, les plis des draps transformés en chiffres, la sueur, l'attente, l'épuisement, les opérations brutales, la miraculeuse mise à l'écart de ce monde de fous. Alors je veux bien entre-temps réentendre des hurlements allemands, des chuchotements anglais, des mots doux espagnols et basques, apprendre que la vie est heurtée, dangereuse, secrète, contradictoire, bloquée, dégagée, etc. Voilà. Ça, c'est un peu un hommage à l'éternel retour nietzschéen, c'est-à-dire qu'il y a un moment où il me semble que tout le monde devrait avoir ça en tête. Est-ce que vous revivriez votre vie dans tous ces détails de nouveau ? Oui ou non ? Je suis persuadé que la très grande majorité des gens, comme on dit, préfèrent mourir que de revivre leur vie. Et donc ce choix vers la mort est quelque chose qui me paraît absolument décisif. Il y a une lassitude, finalement trop d'ennuis, trop de douleurs, trop de souffrances, trop de déceptions, trop d'illusions, trop d'abusions, comme dit Villon.
Vous avez de la chance, vous avez été un homme très heureux.
Oui,
vous êtes un homme très heureux.
Oui, mais comme vous voyez, ça se paye de quelque chose qui est très très saisissant. Bon, j'ai pas arrêté de me délivrer de différentes contraintes, y compris de moi par rapport à moi. Le bonheur est une idée neuve en Europe, a dit Saint-Just, avant que le malheur se répande partout.
Un été avec Philippe Solers, une émission proposée par Dominique Rousset et réalisée par Isabelle Huel. Prise de son Georges Thau, mixage Jean-Louis Deloncle. Demain dimanche, avec Philippe Solers, c'est l'Éloge du XVIIIe siècle.